des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, Martine Biron est officiellement la candidate caquiste dans la circonscription de Chute de la Chaudière. Et hier, on voyait qu'il y avait encore des questions qui lui étaient posées quant à ses opinions avant de se lancer en politique, notamment pour le troisième lien.
Ah, exactement. Donc, il y a à peu près un an, elle en avait parlé à Radio-Canada où elle critiquait vivement ce projet de troisième lien. Elle disait vraiment que c'était un projet électoraliste. Et là, un an plus tard, elle est maintenant en train de le défendre, peut-être pour des raisons électoralistes en partie. Ben, c'est, à mon avis, ça m'apparaît assez évident que le troisième lien, il y a un aspect électoraliste, sinon je pense pas que la CAQ le ferait. Et on a aussi, dans un même esprit un peu, hein, un Bernard Drainville, par exemple, qui ne se reconnaît plus vraiment comme souverainiste, qui va juste se dire souverainiste et qui va défendre lui aussi le troisième lien, ce qu'il faisait pas il y a quelques semaines à peine.
Non, il a toujours été d'accord pour le troisième lien, Bernard Drainville.
Tu penses? Ah oui.
Oui, il l'a toujours défendu. Il n'a pas eu de problème, lui, contrairement à Caroline Saint-Hilaire, qui, elle était contre le troisième lien puis qui a dû un peu... reprendre ses arguments, on voit que Martine Biron est un peu dans le même cas que Caroline Saint-Hilaire.
Ouais, exactement. Puis ça soulève la question, est-ce que un candidat doit rentrer dans le rang? Hein, un candidat politique, est-ce qu'il doit rentrer dans le rang? Est-ce qu'il doit, en quelque sorte, se taire sur certains sujets? Et j'ai l'impression que oui, il y a pas vraiment le choix, surtout quand t'es un candidat, quand t'es même pas élu. Imaginez vous présenter pour un parti politique et dès les premières minutes que tu te présentes, dès la première rencontre avec les médias, tu commences à critiquer le parti. Disons que ça commencerait plutôt mal. Et ça rappelle aussi que un parti politique est par définition une coalition, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes qui proviennent de différents horizons. Évidemment, ils ont des traits en commun, mais c'est pas vrai qu'ils vont être d'accord sur tous les sujets et ça m'apparaît assez normal, en fait.
Oui, la règle, disons, les lignes de parti sont souvent très, très important, mais on voit de plus en plus, surtout sur des questions très, disons, intimes, que ce soit l'avortement, on avait vu aussi dans il y a plusieurs années sur le mariage gay, là, je pense pas que c'est une question aujourd'hui qui est dans un débat, il y a eu des votes libres. Et là, on le voit encore chez les conservateurs, par exemple, fédéraux. Pour la question de l'avortement, c'est encore un vote libre. Devrait-on continuer à permettre le vote libre sur des questions qui portent atteinte à des droits de certains citoyens?
Ben, c'est sûr que les exemples que tu mentionnes, souvent, c'est en lien avec les croyances. Souvent, c'est en lien avec notre conception de la vie, par exemple, comme justement quand tu parles de l'avortement. Donc oui, moi je suis, j'ai aucun problème avec ça. Et même ça sur le ce qu'on doit rentrer dans le rang. En fait, la question que je me pose surtout, c'est il arrive toujours un moment, en fait pas toujours, là, mais il peut arriver un moment où est-ce que le parti va prendre un virage avec lequel on sera pas d'accord. Et la question un peu, c'est quel est ce virage-là? Et c'est pour ça peut-être que la décision de Bernard Drainville est surprenante parce que c'était quoi l'image de Bernard Drainville? C'était quoi son identité? On avait l'impression que c'était la souveraineté dans un premier temps. Et là, de le voir faire un saut avec la CAQ, on a l'impression que, OK, ben, attends, là, il va peut-être à l'encontre d'un des fondements et peut-être même le fondement de son activité politique. C'est ça vraiment qui est surprenant. Dans le cas de Martine Biron, je pense manifestement, c'est pas le troisième lien ou la contestation du troisième lien, qui était le fondement de son activité politique. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir c'est quoi le fondement de son activité politique. J'en suis pas certain qu'elle a répondu à cette question-là.
La question lui a été posée hier, c'est intéressant, parce qu'ils lui ont demandé, Madame Biron, êtes-vous fédéraliste ou souverainiste? Sa réponse a été, je suis une nationaliste pur sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée.
Ouais, c'est maintenant la réponse de classique de la CAQ, j'ai l'impression. Et tu seras sans doute en désaccord avec moi, Yasmine. En même temps, je suis curieux de t'entendre. Plusieurs vont dire qu'un nationalisme cohérent au Québec, tôt ou tard, va mener au souverainisme parce qu'il va faire face aux décisions d'Ottawa qui vont le freiner. François Legault qui veut plus de pouvoir en immigration, par exemple, ben on sait bien que le fédéral ne l'acceptera pas. Donc, ça sera quoi le rapport de force que Legault va avoir? Ça sera aucun rapport de force. Donc, plusieurs vont dire que c'est ça l'aboutissement d'un nationalisme cohérent, finalement.
Ouais, ça c'est des termes bien savants qui essaient d'utiliser, disons, les souverainistes qui rêvent encore du pays. La réponse c'est tout simple, c'est qu'on peut être très nationaliste et comme dirait Martine Biron, nationaliste pur sang et croire en cette fédération, croire que on est plus fort dans une fédération canadienne. C'est tout à fait aussi cohérent parce que on a des pouvoirs en immigration. On est d'ailleurs la seule province à en avoir des pouvoirs en immigration, notamment pour la sélection des immigrants économiques. Ce que le gouvernement Legault ne nous dit pas, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les autres pouvoirs, notamment de l'immigration humanitaire ou les immigrants temporaires. Quels sont les changements qu'ils veulent mener? Ça, on ne sait pas. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils veulent améliorer là-dedans. Qu'on donne des arguments. Parce qu'il suffit pas juste de rapatrier des pouvoirs pour rapatrier des pouvoirs. Il faut à tout le moins justifier pourquoi ce n'est pas à Ottawa de le faire. Autre chose que je te dirais, David, c'est que être un nationaliste fédéraliste, c'est de crier haut et fort que le fédéral n'a pas d'affaires dans les transferts en santé à nous dire quoi faire avec cet argent-là, qu'il signe le chèque, qu'il nous l'envoie, puis qu'il continue à contribuer, parce que c'est ça le rôle, c'est de nous transférer cet argent-là, puis c'est aux provinces, on est capable de gérer notre argent dans nos hôpitaux. Tu vois, ça pour moi, c'est du nationalisme cohérent.
Ah, je suis d'accord avec toi, puis t'as raison sur la question de l'immigration. François Legault a de la difficulté à l'expliquer, et faut avoir une espèce de faut avoir des bons arguments au final. Hein. Faut convaincre les gens, puis t'as raison que sur cette question-là, ben je pense qu'intuitivement on voit comme quelque chose de positif d'avoir plus de pouvoir, mais faut quand même prendre le temps de l'expliquer. Puis je reviens sur l'expression nationalisme pur sang, on dirait une espèce de vocabulaire de chevaux d'écurie. Il y a quand même quelque chose de particulier là-dedans.
C'est vrai que ça a l'air, ça me faisait penser à ça moi aussi. Sinon, j'aimerais t'entendre sur la formation des enseignants. Là, il y a tout un problème là qui est créé parce que le ministre Roberge, devant la pénurie qui sévit dans plusieurs écoles du Québec, ben, a créé des programmes courts pour pouvoir enseigner. Une espèce de maîtrise qualifiante et il y a des experts qui sont pour, il y a des experts qui sont contre. Toi qui es un expert du terrain, on va t'appeler comme ça, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ben moi j'ai fait un programme court qu'on peut appeler donc une maîtrise qualifiante. Donc c'est-à-dire que pour favoriser le fait qu'il y ait plus d'enseignants, on crée des programmes plus courts de maîtrise où est-ce qu'on nécessite un baccalauréat puis on fait le programme en 2 ans. Et le ministre Roberge commence à multiplier ces programmes-là. Et là, il y a certains experts qui disent « Ah ben, c'est pas assez, 2 ans, ça prend le bac de 4 ans. » Évidemment, quelqu'un qui a un baccalauréat, qui a déjà fait un baccalauréat, je sais pas, en génie, ce qui va vraiment vouloir se lancer dans un baccalauréat de 4 ans pour commencer à enseigner, disons, il va en avoir moins, c'est certain. Donc, la maîtrise qualifiante, qui se donne souvent en cours du soir, est très, très intéressante, de plus en plus populaire pour ça. Et moi, j'ai pas l'impression que la formation de 2 ans est moins bonne que celle de 4 ans. Et j'ai envie de critiquer de manière générale, en fait, la formation des maîtres, la formation des enseignants en général. Parce que je te dirais que des fois, c'est le laboratoire des idées farfelues. Je peux t'en donner plusieurs exemples, là. On avait déjà eu un cours, tiens-toi bien, Yasmine. Et là, je te rappelle, enseignement au secondaire, secondaire 5, des gars de 17 ans, des filles de 17 ans, un enseignement avec des marionnettes. Ça a été un cours qu'on avait eu là-dessus. C'était passionnant et je te fais un clin d'œil en te disant ça.
Mais dans le cadre de quoi, de quel cours est-ce que c'était pour pouvoir enseigner le marionnettisme ou je sais pas comment on l'appelle comme discipline aux enfants?
Non, c'était vraiment de, t'avais une notion à enseigner, participe passé, algèbre, peu importe, et t'allais utiliser des marionnettes pour...
Comme moyen pédagogique, là.
Ouais, exactement. Je l'ai pas essayé dans mes classes, Yasmine.
Mais je veux dire, ma plus jeune, son anniversaire arrive bientôt, si tu veux te pratiquer, je t'invite chez nous pour un petit concert, un petit spectacle de marionnettes. Toi qui as de la formation là-dessus.
Ouais, je pourrais peut-être venir pratiquer ça avec ta fille. Mais vois-tu, c'est ça, avec des enfants de 5 ans, je pourrais comprendre. Des gars de 17 ans, je me rappelle très bien de demander dans la classe, et je pourrais faire ça avec mes élèves de 17 ans, et la formatrice de me répondre très sérieusement que oui. Donc oui, c'est le genre de choses qui font un peu dur. Je me rappelle aussi d'un prof, c'est pas tous les profs, mais ça représente quand même un peu l'esprit. Tu sais, un prof qui donnait A+ à tous les élèves, à tous les étudiants, dès qu'il remettait un travail. On a eu des cours sur l'aromathérapie. Donc, c'est un peu toujours dans cet esprit-là.
Ésotérique, là.
Un peu, exactement. On veut réinventer le bouton à 4 trous. Tu sais, vraiment des choses qui aideraient les élèves, les futurs enseignants au quotidien. C'est trop banal, ça. Faut innover, faut changer le monde. Alors, mais j'ai pas l'impression que véritablement les enseignants ont besoin de ça. Et la mauvaise formation qu'ils ont est une des raisons de la pénurie d'enseignants et une des raisons pourquoi les enseignants quittent. Il faut le pointer du doigt. Et je pense que Jean-François Roberge a raison de faire des programmes courts et je pense qu'il devrait même réviser ces programmes courts-là pour que les cours soient le plus pertinent possible pour la pratique enseignante.
David Santarossa, merci beaucoup. On se retrouve demain.
On se parle demain.